Certains me demandent quelquefois comment je choisis mes sujets de prédication. Alors, bien sûr, il y a les lectures du jour, le calendrier, il y a les fêtes chrétiennes, mais il arrive aussi que j'aille où le vent me mène, en espérant que ce vent soit celui de l'esprit, naturellement. Disons que, comme vous, je vis les yeux grands ouverts. Et dans ce dialogue exigeant et passionnant entre la vie et la parole de Dieu, peuvent naître des prédications. Dernièrement, en courant dans le bois de Burk, je suis arrivé devant un champ de blé vert, bien levé, et non loin de là, il y avait aussi de la mauvaise herbe, de l'épillet. J'ai été frappé par la ressemblance entre le blé et l'herbe folle et j'en ai ramené à la maison un échantillon. Avouez que la ressemblance est stupéfiante. Impossible de distinguer au premier coup d'œil entre le blé et l'espigao, comme on dit dans mon pays. À moins de tirer à la courte paille, impossible de savoir. Bref, tout cela m'a conduit à la parabole du bon grain et de l'ivraie que nous venons de lire. Matthieu consacre ce chapitre 13 aux paraboles dites du royaume des cieux. C'est le temps des semailles en vue de la moisson. Le royaume des cieux est semblable à un homme sorti pour semer. La parabole du bon grain et de l'ivraie ajoute quelque chose à ce temps des semailles. Une fois les semailles réalisées, on s'aperçoit que le bon grain n'est pas seul dans le champ. La mauvaise herbe, ça a donné un mot français assez intéressant, la mauvaise herbe, la zizania en grec, s'est invitée dans le champ. Et Matthieu, à cause de cette anomalie fort préoccupante, met dans la bouche des serviteurs une question, votre question, ma question, d'où vient donc qu'il se trouve aussi de l'ivraie? C'est la question qu'on se pose tous, d'où vient le mal? Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord souligner une chose essentielle qu'on oublie peut-être trop souvent, que le bon grain semé donne de belles plantes. Il serait injuste de focaliser sur la présence de l'ivraie au point d'en oublier la croissance du bon grain. Et c'est pourtant ce que font la quasi-totalité des traductions de la Bible à propos de cette parabole. En tout cas, les principales que j'ai consultées, la Nouvelle Bible en français courant, la Nouvelle Bible Second, la traduction œcuménique, qui a été lue ce matin, titre d'un commun accord, la parabole de la mauvaise herbe, ou la parabole de l'ivraie, ce qui est pareil. Cela d'ailleurs fera plaisir à Jacques Peter Schmitt, que je salue ce matin, puisqu'il prêche lui aussi dans le cadre de son stage à Bergerac. Seule la traduction d'Émile Hostie, titre parabole du bon grain et de l'ivraie. Et ce titre-là me paraît tout à fait conforme à notre parabole. Elle est un résumé de l'histoire du salut. Et cette histoire du salut nous dit, au commencement, Dieu créa. Dieu ensemença notre monde de vie, de joie, de projet. Tout commence par le bon grain. Et tout finira par la moisson du bon grain. Entre le commencement et la fin, il y a la parenthèse de l'ivraie. Le mal est donc un corps étranger à la création, un accident de l'histoire, non pas sa norme, et surtout pas son sens ultime. Et dans notre parabole, tout commence par un homme qui sème du bon grain dans son champ. Le royaume des cieux est donc déjà à l'œuvre, ici-bas et maintenant, dans le geste auguste du semeur. L'appel de Dieu a changé de vie, est lancé, il retentit sur la terre, la vie nouvelle se développe, elle est en devenir. Je plaide donc pour une lecture optimiste, si vous préférez, une lecture espérante de l'histoire, pour la seule raison qu'un homme est venu pour semer et que cet homme est le Sauveur Jésus-Christ. La prédication du péché, je remercie Mika de nous avoir rappelé que la grâce est première et dernière ce matin. La prédication du péché, si elle peut s'avérer quelquefois nécessaire, ne doit pas devenir la règle. Face à la puissance de l'espérance, la puissance du mal ne fait pas le poids. Nous prêchons, sœurs et frères, une bonne nouvelle. C'est vrai que, à vue humaine, il y a toutes les raisons de dénoncer, de se lamenter, de désespérer. J'entends déjà dire que le virus va à nouveau tout bloquer à la rentrée, que l'économie va s'effondrer, que Donald Trump va être réélu, qu'on va tous mourir. Oui, on va tous mourir. Mais au-delà des soubresauts de l'histoire, de notre histoire, au-delà de la mort elle-même, nous croyons que Dieu conduit notre monde à sa fin et que la moisson est programmée. La destruction et l'anéantissement n'auront pas le dernier mot. Ceci étant dit, il y a de l'ivraie au milieu du bon grain. Et il n'est pas question, à l'inverse, de jouer les candides, les naïfs, de nier la réalité. Quelqu'un sème ici-bas la zizanie. Le mal est au milieu du bien. Cette réalité révolte l'homme et le fait énormément souffrir. Combien sommes-nous, à l'occasion d'une injustice, de la mort d'un innocent, d'une catastrophe naturelle, à lever les regards en colère vers le ciel et à interroger « Pourquoi ? Pourquoi, Seigneur, n'empêches-tu pas tout cela ?» La parabole du bon grain et de l'ivraie ne donne pas de réponse, elle se limite au constat de la présence d'un ennemi, d'une force hostile, mais n'en explique pas son origine. La parabole affirme que le mal n'est pas seulement le fait de volontés humaines déréglées, pas seulement le fait de choix individuels ou collectifs, contraire au bien et à la justice, mais que c'est d'abord un ennemi, une force à l'œuvre, indépendante de l'homme. Et c'est là qu'entrent en scène les serviteurs. Ils sont formidables. Ils se tiennent du côté des solutions radicales. Ils défendent l'idée géniale, une idée évidente, qu'en arrachant l'ivraie, le problème du mal sera réglé. Et c'est à ce point précis que se trouve l'originalité de la parabole. Le maître refuse la proposition des purificateurs de service. il est impossible d'y voir clair à 100%. Puisqu'on ne peut pas distinguer avec une absolue certitude, je reprends mes trois petits brins, une absolue certitude entre un épi de blé et un épi d'espier, laissons-les grandir et vivre ensemble. Quelqu'un s'en occupera plus tard. Jésus, avec cette parole, vient de doucher une vision idéalisée, aseptisée et finalement dangereuse de l'Église. Elle n'est pas un cercle de purs, d'élus, parfaitement en règle avec Dieu, détenteurs des clés des Écritures et de la juste relation au prochain. On trouvera toujours un espié de chien-dent, Paul dira une écharde dans la chair, au plus fidèle des fidèles. Et le maître met en garde, ne faites pas ça. Laissez l'ivraie et le bon grain coexister, croître ensemble, j'allais dire croire ensemble. L'intention la plus spirituelle peut donc aboutir à une catastrophe qui est la destruction du bien. Au nom de la vérité, on a tué, on tue et on tuera. Pourquoi le risque de confusion est-il si grand? Je vous l'ai montré avec mes petits épis. C'est évident, le mal et le bien cachent souvent leur jeu, au point que l'un se confonde avec l'autre. Je ne dis pas qu'ils se confondent en soi l'un avec l'autre, mais dans notre discernement. Satan, qui est le roi du déguisement, est souvent acclamé comme ange de lumière, par les chrétiens aussi. Mais coexister avec le mal ne signifie pas abdiquer devant le mal. Cette coexistence est une nécessité et non pas une panacée. C'est parce que nous n'avons pas de savoir ultime et définitif sur ce qui se passe autour de nous que nous sommes invités à une grande prudence, dans nos jugements en particulier. Hier, c'était la journée mondiale des réfugiés. Un exemple me vient. Sauver des réfugiés du naufrage en Méditerranée, c'est une chose magnifique. Mais il peut arriver que parmi les rescapés s'introduise un terroriste. Et les apôtres de la purification et du risque zéro exigeront qu'à ce compte-là, on rejette tout le monde à la mer. Femmes, enfants, voyageurs innocents, tout le monde. Et cet exemple nous montre que le bien et le mal avancent ensemble, sont impossibles à identifier avec certitude, qu'il faut donc prendre des risques. Celui du vivre ensemble, celui de l'accueil, le risque de vivre, tout court. Et pour que le conte soit tout à fait juste, il faut confesser que cette coexistence du bon grain et de l'ivraie n'est pas seulement un phénomène observable chez les autres. Ceux qui ne pensent pas comme moi, dans la société ou dans l'Église, le bon grain et l'ivraie poussent ensemble dans mon cœur. J'expérimente cette douloureuse cohabitation du bien et du mal en moi-même. Chaque journée m'en apporte des preuves irréfutables. Vouloir séparer le mal et le bien, chercher à purifier la société, l'Église, ou notre propre vie, de cette réalité qui est inextricable. C'est au fond, Jésus nous le dit clairement ce matin, servir les forces de mort. C'est nous prendre pour des dieux, pour ceux qui prétendent avoir la pleine connaissance du bien et du mal. Et Jésus nous rappelle ici des choses cachées depuis la fondation du monde. Les paraboles font mal, elles disent la vérité sur nos vies. Cependant, je crois que cette parabole ouvre nos vies à un avenir passionnant, un peu comme les Ninivites. Elle affirme que le temps de la moisson vient. La confusion, l'incertitude et le danger ne fabriqueront pas toujours notre quotidien. Et puis, je le disais en ouverture de cette méditation, le bon grain pousse et il produit du fruit. Le royaume des cieux n'est pas seulement à attendre, il est là. Il grandit. Il est à saisir, à vivre dès à présent. Parce que le projet de Dieu pour notre monde est un projet de bénédiction et non de malheur. Je crois même que certains épis de chien dedans, à force de fréquenter le bon grain dans le champ, puissent vivre une expérience transgénique, tout à fait extraordinaire, miraculeuse, celle de devenir un épi de bon grain. Plusieurs pourraient témoigner. Jésus nous veut dans le monde pour cela, pour vivre et témoigner de sa grâce, de son amour auprès de tous. Vienne le temps de la moisson. Amen.